Prénom et votre fonction, parce que j'ai pas noté.
Alors, je suis Cédric Moulard et je m'occupe des expositions itinérantes pour Tempora.
Est-ce que vous pouvez juste appeler votre nom de famille?
Moulart, comme Théo.
Parfait. La question, voilà, comment vous avez construit en fait cette exposition? Parce qu'on part du Japon, on va dire, traditionnel, et on va jusqu'à la modernité. En fait, il y a une certaine progression temporelle aussi dans l'exposition.
Exactement. Alors, on a vraiment voulu penser l'exposition pour qu'elle soit une plongée ou un voyage dans l'histoire, dans la culture du Japon. Donc, il y a en effet un certain ordre chronologique dans les différents thèmes qu'on va aborder. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer ce lien qu'ils ont avec la tradition et l'histoire et ce côté super moderne qu'on leur connaît. Et dans le fait que chacun de leurs actes en fait pas mal influencé justement par ces traditions encore aujourd'hui en 2024.
Il y a différents domaines de l'art qui sont très présents. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples? Peut-être que les gens ne connaissent pas forcément et c'est l'occasion de les découvrir.
Oui, exactement. Donc on a essayé d'être le plus extensif possible. Donc on mentionne par exemple le kintsugi qui est l'art de pouvoir réparer les objets et justement de leur donner une seconde vie, de les rendre encore plus beaux et de les embellir. Donc on a la chance de voir quelques pièces d'un grand maître qui s'appelle Tsukamoto. On parle évidemment des arts martiaux qu'on connaît et qui découlent en fait directement du code Bushido, du code des samouraïs qui imposait une discipline, une philosophie, une manière de voir. Le Japon est extrêmement influencé par le bouddhisme dès le 6e siècle, évidemment par le shintoïsme. Et donc ce côté spirituel, à nouveau, on le retrouve dans toutes ces activités, la calligraphie notamment. Il y a une extensive culture littéraire. On a des œuvres d'abord écrites en chinois et puis en japonais à partir des années 1000 qui sont extrêmement célèbres. Dans le plus contemporain, on a aussi des prix Nobel de littérature qui sont japonais. Et on arrive évidemment sur le manga et les jeux vidéo qui sont extrêmement populaires, donc on se devait de le mentionner, qui sont aussi des fenêtres en fait sur la culture japonaise, ne serait-ce que par la manière dont ils ont évolué pour être présentés maintenant, mais aussi parce que ce sont des fenêtres vers leur culture, vers les histoires qu'ils ont envie de nous raconter.
Est-ce que vous diriez que l'exposition finalement s'adresse autant à des connaisseurs, des passionnés du Japon, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose? C'est pour tout le monde cette exposition?
Exact. Alors de nouveau, pour Tempora, quand l'exposition est pour Europa Expo qui l'a conçue, c'était extrêmement important qu'elle soit pour tous les publics. Donc, elle est aussi bien pour les personnes qui rêvent d'aller au Japon et qui ont envie de découvrir et de mieux comprendre ce pays et ses traditions, pour les personnes qui ont été et qui ont certainement peut-être pas été en profondeur dans le kintsugi ou l'art de Yami ou d'autres manières de fonctionner. Donc c'est vraiment donner envie d'aller plus loin. Et pour les jeunes publics, on a d'ailleurs préparé des dossiers pédagogiques pour les enseignants et pour les enfants. On a des livres et jeux, on a une petite quête de boules de cristal. L'idée, c'est vraiment de pouvoir intéresser tous les publics à venir s'immerger dans une vraie expérience autour du Japon, de la culture japonaise pendant une heure et demie.
C'est la 6e expo Tempora sur Lyon, ça veut dire quoi? Vous êtes marié avec la ville de Lyon?
Alors on est ravis et vraiment heureux de pouvoir être à Lyon. On a des retours géniaux des Lyonnais, mais évidemment aussi de la région et des gens autour. Donc voilà, on espère pouvoir continuer notre collaboration avec la Sucrière. On espère continuer à pouvoir faire rêver et voyager les locaux à travers nos différentes expositions.
Merci.
Merci.
Direct en jeu, la radio insolite, après tout en canon, direction le Japon. Ça, c'est original comme démarche, hein. Ça change un peu.
Ça change tout à fait, mais je crois que l'objectif poursuivi était de montrer à nos visiteurs qu'en fait, le Japon, qui est tellement connu pour ses traditions ancestrales, fait aussi que ces traditions ont une influence quotidienne dans le vécu des Japonais. Et ce lien était intéressant à montrer.
Alors, à qui ai-je l'honneur ?
Alain Magère, je suis administrateur délégué d'Europa Expo.
Oula, c'est sérieux là. Et tu es le concepteur de l'expo qui s'appelle Passion Japon.
Alors on dit Passion Japon, mais aujourd'hui quand on fait le tour, je pourrais dire qu'on pourrait aussi appeler l'exposition Frisson Japon, Émotion Japon. Je crois que le travail qui a été fait par les équipes est vraiment remarquable. Et l'immersion permet d'avoir une dimension complémentaire à la visite. Parce qu'effectivement, il y a les vitrines, il y a les objets qui sont remarquables, il y a les mises en situation. Mais voilà, cette immersion permet aux visiteurs de ressentir quelque chose de plus, sauf qu'ils sont une émotion, comme je le disais.
Alors, question très basique, pourquoi le Japon?
Mais le Japon, comme je le disais, a un passé quand même qui marque les esprits aujourd'hui. Effectivement, dans le grand public, on est quand même attentif à ce qui se passe au Japon. On sait aussi que le Japon n'a pas eu facile avec ses voisins, que ce soit la Chine et avec la Corée, mais le Japon aussi, parce que les jeunes s'y intéressent beaucoup, ils veulent y aller, mais il y a aussi le monde des mangas, le monde des cosplays qui les passionne. Et donc ce lien avec la jeune génération est tout à fait l'indication qu'il fallait faire cette exposition.
En visitant l'expo, moi j'ai l'impression de me trouver dans un autre continent. On est carrément de l'autre côté de la Terre. Là.
Heureusement, je veux dire, le monde est différent. Si le monde était uniforme, je crois qu'il serait assez triste. Donc cette différenciation, cette différence, elle est effectivement importante. Et ce voyage dans le temps aussi, parce qu'on n'est pas simplement sur un autre continent, mais c'est aussi tout ce passé historique, culturel, traditionnel, parce qu'il y a des traditions tout à fait propres au Japon. Je trouve que ce voyage est passionnant.
Comment était constituée l'expo ? L'idée, c'était de faire un parcours ?
Oui, parce que la matière est tellement vaste qu'il fallait trouver une certaine cohérence, un fil rouge. Et en fait, finalement, le fil rouge, on ne l'a pas trouvé dans le parcours, mais dans le lien entre le passé et le présent. Et donc, on va aussi bien commencer par traverser un jardin zen. On va connaître, découvrir tout le monde des religions, où là, les religions sont complémentaires. Un japonais peut être à la fois hindouiste et à la fois chatouiste. Donc voilà, c'est assez particulier. Il y a évidemment la cérémonie du thé, il y a les samouraïs et les geishas qui sont aussi une part importante de cette tradition. Comme je l'ai dit, il y a le monde des mangas, il y a aussi le kintsugi qui est quelque chose de très particulier. Et on a la chance de travailler avec l'arbre à plumes où Jean a pu faire la connaissance du maître du kintsugi, travailler avec lui. Et aujourd'hui, il a cet agrément du grand maître de pouvoir travailler seul. Donc tout ça est pour nous quelque chose qui fait qu'on va au-delà de simplement des images ou des clichés. On essaye de faire partager des émotions et des expériences vécues.
Est-ce que j'ai le droit de dire que là, vous êtes quasiment marié avec la ville de Lyon ? C'est le sixième, je crois.
Alors, tempora peut-être, repas pas encore. Nous, c'est notre deuxième expérience. Mais je viens de dire à la directrice de la sucrière que si elle voulait, on pouvait travailler ensemble, que j'ai une exposition à Liège pour le moment qui s'appelle Da Vinci et qui pourrait bien trouver sa place également à Lyon. Donc, pourquoi pas ? Pour le dire aussi, on a un petit clin d'œil avec la ville de Lyon, puisqu'on évoque Guimet et on évoque aussi cette photographe qui a passé sa vie au Japon et qui a fait des clichés remarquables. Donc ce clin d'œil avec la communauté lyonnaise n'est pas inutile.
L'idée, c'est de faire découvrir le Japon, c'est de donner envie d'y aller.
Tout à fait. Et on sent que par rapport à ça, l'exposition permet non seulement de rêver, mais permet aussi de dire, tiens, on va préparer ce voyage. Parce que ce n'est pas un voyage qu'on décide comme ça, après un repas, c'est un voyage que l'on prépare. Parce qu'il faut effectivement prendre le temps d'organiser son périple, de décider où on veut aller, de ce qu'on veut voir, et ça c'est important, et l'exposition peut y aider.
Puis surtout comprendre les traditions.
Ça, c'est essentiel parce que si on ne saisit pas, on passe à côté et on ne rencontre pas les valeurs qui sont propagées, qui sont par ces traditions. Et alors, on en revient à des clichés qui sont tout à fait sommaires et qu'il faut dépasser.
Oui, je prends le risque parce que je ne connais pas la réponse, mais tant pis. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du Japon ?
Mais moi, je n'y ai pas encore été.
Voilà, je prenais un risque, je vais te poser la question d'abord.
Donc voilà, mais par contre, ça fait partie de mes projets, donc je vous répondrai la prochaine fois.
L'expo, elle est à Lyon, elle va partir à New York, elle va partir à Pékin, elle va partir à Hong Kong, elle va partir où après ?
On n'a pas encore décidé la prochaine destination, mais on a plusieurs contacts. Et on va effectivement aussi aller en dehors des frontières de l'Europe parce qu'il y a une matière à le faire et on est aussi en contact avec les Émirats. Donc voilà, il y a des possibilités pour aller faire voyager cette exposition.
Jusqu'à fin novembre, je crois, ici à la sucrière.
Alors si vous regardez le flyer, il annonce le 3 novembre, mais qui sait si effectivement le succès est au rendez-vous et que l'attente des Lyonnaises et Lyonnais est là, on peut peut-être effectivement prolonger jusqu'à la fin novembre alors.
Merci à vous.
Merci avec vous aussi, grand plaisir.
Direct en jeu, la radio insolite à la sucrière pour l'expo sur le Japon. Ben alors là, j'ai du mal à comprendre, on est au Japon, en Belgique avec toi?
Un peu des deux. Un pied au Japon, un pied en Belgique.
Non, on est à Lyon, on est en France.
Ah, bien vu. Ouais.
Alors, le Japon, si je te dis Japon, tu fermes les yeux, ça te fait penser à quoi ?
La première ville où je vais, c'est à Kyoto. Kyoto, qui est un peu ma ville fétiche personnellement, parce que c'est vraiment le... Bah, d'abord, c'est une ancienne capitale au Japon, et puis c'est vraiment un cœur historique où il y a beaucoup de choses qui s'y sont passées vraiment au niveau historique, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'écriture, dans la plupart des arts. Et ouais, il y règne une atmosphère très paisible, même si c'était une très très grande ville, avec des temples magnifiques, des promenades où on peut se perdre parmi les temples, et vraiment, c'est la première chose que je vois, moi, quand je ferme les yeux.
Question, j'accuse. Qui est responsable de ta passion pour le Japon? T'es tombée dedans quand t'étais petite, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, moi, c'est les arts martiaux qui m'ont conduit là-bas. Ouais, j'ai fait du karaté quand j'étais gamine. Et puis, du karaté, j'ai commencé à lire des bouquins. Mishima, le cinéma, les samouraïs, enfin, tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert le bouddhisme. Je pratique le bouddhisme. Et puis, comme c'est un bouddhisme japonais, c'était mon rêve un jour de partir au Japon. Et puis ce rêve, je l'ai longtemps repoussé en me disant « Oh, c'est un rêve inaccessible, j'aurais les moyens de partir là-bas et tout. » Et puis un jour, j'y étais. Quelqu'un m'a un jour offert un billet en me disant « Vas-y, en allez. Et débrouille-toi pour le reste. » Et je suis partie. Et puis, maintenant, j'y vais au moins 2 ou 3 fois par an. Si, j'ai quand même pris le billet retour parce qu'au Japon, malheureusement, l'immigration est très, très, très contrôlée. C'est très difficile d'y rester. Soit, c'est une société européenne qui vous invite à y travailler, ou alors il faut être marié à un Japonais pour pouvoir y rester et devenir... résident, mais sinon, ou alors avoir un visa d'étudiant, ce qui n'était pas mon cas puisque j'étais déjà quand même plus âgée. Mais par contre, y aller régulièrement, oui, parce que c'est vraiment un pays fabuleux.
Je m'excuse auprès des auditeurs, j'ai oublié. Qui es-tu au fait?
C'est vrai. Je m'appelle Barbara Dow, donc je suis la fondatrice d'une ASBL, donc c'est l'équivalent de la loi 1901. Donc c'est une association sans but lucratif qui fait la promotion des arts, mais pas n'importe quels arts, c'est les arts qui font la promotion de la paix, du dialogue interculturel et de la transmission. Alors ça paraît un peu théorique comme ça, mais... moi-même, je suis comédienne au départ, et puis conteuse, et j'écris, je peins. Mon compagnon Jean Vinclair, qui travaille avec moi dans l'ASBL, est lui-même danseur, sculpteur, multitalent, et il est aussi maintenant maître de kintsugi. Et ensemble, on a cette passion pour le Japon. Et donc, on a commencé, il y a maintenant plus de 10 ans, à vouloir créer des expos, créer des événements autour du Japon et de l'art contemporain, et de la peinture et de la sculpture. Et puis, un jour, on est tombé sur une vidéo qui parlait du kintsugi avec un très vieux maître au Japon. Et on a dit, oh, ça, c'est exactement ce qu'on veut transmettre. Mais vraiment, avec la philosophie, tout ce qui allait derrière. Donc, on allait là-bas pour aller rencontrer une artiste qui est d'ailleurs ici, qui est Kyoko Uematsu, qui est une peintre extraordinaire, très peu connue chez nous, mais il y a un travail vraiment magnifique justement sur l'énergie des animaux. Et donc, on lui a écrit à ce vieux maître en lui disant « S'il vous plaît, maître, recevez-nous, on rêve de pouvoir vous rencontrer. » Et 3 jours avant de partir au Japon, il nous renvoie un mail « Si vous voulez toujours me voir, venez dans mon atelier tel jour à telle heure. » Résultat des courses, on s'est retrouvés Jean et moi le vendredi à 14h devant sa porte au garde-à-vous, prêt à sonner à l'heure dite sur le bouton de la sonnette. Il nous a reçus évidemment, je connais suffisamment un petit peu les codes des Japonais. Il nous a dit « Bonjour, est-ce que vous savez ce qu'est le kintsugi ?» Nous avons répondu « Non, maître, nous ne savons pas ce qu'est le kintsugi, enseignez-nous. » Et l'interview, qui devait durer une demi-heure, a duré 4 heures. Il nous a parlé du kintsugi en montrant des bols du XVIe siècle, en nous racontant toute la philosophie et l'histoire du kintsugi. Et puis, il nous a demandé comme ça « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, au Japon ?» Et puis on lui a juste dit, mais en fait, ce que vous racontez, c'est tellement extraordinaire. On voudrait tellement faire partager ça ici en Europe parce que je pense que le monde en a juste besoin. Et il a fait, oui, exposer, bof, ça, c'est pas ça qui m'intéresse, j'ai déjà exposé chez Chanel, chez Louis Vuitton, machin, bof, c'est pas ça. Je suis maintenant très âgée et je me suis rendu compte qu'en Europe, il y avait énormément de faux kintsugi. Et ça me peine énormément. Et donc, pour lui, c'était la tradition, l'art du maquillé, donc l'art de la laque, fait avec de l'or 24 carats. Et jusqu'à mon dernier jour, je veux enseigner. Je veux transmettre cet art qui m'a été donné de mes pères. Et je n'aurai de cesse que de l'enseigner. Et donc, on lui a dit, c'est pas grave, on va transformer notre atelier. Et puis, vous venez enseigner. Il nous a regardé en disant, est-ce que vous êtes sérieux ? On n'a pas trop réfléchi, on dit « oui, oui, on est sérieux ». Et puis, il nous a dit « ok, ben, je viens ». Et c'est là que, j'allais dire, les ennuis ont commencé. Parce que comme on était une toute petite assos, sans subsides et sans rien, on a essayé de grappiller des subsides à droite et à gauche qu'on n'a pas trouvé. Donc, on a dû sortir nos économies sur nos comptes d'épargne. Moi, j'ai la trouille de devoir payer ma maison. On lui a dit, écoute, Tsukamoto, sensei, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir te payer l'hôtel. Tu vas venir loger à la maison, puis on va faire des pâtes. Et puis, l'avion, au lieu de te faire un vol direct, on va passer par 2-3 trucs, histoire que ça coûte le moins cher possible. Puis on l'a fait venir, puis c'était un succès, puis l'ambassade est venue et nous a dit comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce grand maître chez vous. Et puis les choses se sont enchaînées de fil en aiguille. La commune en Belgique où on est était justement jumelée avec une ville au Japon, a voulu fêter les 30 ans de son jumelage, nous a donné un magnifique budget pour faire une curation extraordinaire. Et là maintenant, on a plus de 120 pièces historiques de ce grand maître dont la SBL est dépositaire et on a été mandaté devant l'ambassade pour être les porte-parole de ce kintsugi traditionnel. Donc on essaye de notre mieux, de façon bénévole, mais quand même avec tout notre cœur, de parler de ce kintsugi traditionnel, de son lien avec le wabi-sabi, avec sa tradition encore très vivante et voilà.
En visitant l'expo, j'avais l'impression d'être dans un autre univers, de l'autre côté de la planète. C'est assez impressionnant quand même.
Oui, je trouve que l'exposition Passion Japon que Europa Expo a créée est vraiment un très beau panel. Elle s'est vraiment enrichie depuis l'expo qui a été créée à Liège il y a maintenant presque 2 ans. Elle va beaucoup plus en profondeur, elle est vraiment très belle. Et on a ce panel à la fois historique sur la religion, sur la littérature. Évidemment, on ne peut pas voir tous les artistes et tous les arts martiaux, mais ça donne quand même un beau panel. Les panneaux explicatifs sont quand même assez bien faits. Il y a l'audio guide. Et puis, toutes les pièces qui sont là sont toutes des pièces soit historiques, prêtées par des musées ou en tout cas qui viennent directement du Japon. Il n'y a pas de facsimilé. Donc, c'est quand même une très grande richesse. Et je trouve que le travail est vraiment extraordinaire. On est vraiment immergé dans un univers, quoi.
Je me suis demandé, par rapport aux pièces que vous présentez, vous, s'il y allait y avoir des ateliers.
Oui.
J'aime bien le « oui ».
Alors, moi, mon premier métier, c'est comédienne. Évidemment, j'ai fait du théâtre, j'ai presque envie de dire comme tout le monde, quand on sort du conservatoire. Et puis, je suis tombée dans la soupe du conte. Et là, j'ai créé un spectacle de kamishibai, un peu plus enrichi avec justement des contes japonais. Et puis, avec l'accord de Tempora, en principe, j'y viendrai vous les présenter ici à Lyon dans les mois qui vont venir. Les dates ne sont pas encore fixées, mais ça ne saurait tarder. Elles vont être décidées là, dans les jours qui viennent. Et puis, avec mon compagnon, on va aussi faire une conférence sur le kintsugi, sur l'histoire, la philosophie et vraiment la genèse du kintsugi, comment elle s'est née au Japon et quelles en étaient les raisons. Et mon compagnon, qui a donc été le bras droit de Sensei Tsukamoto et qui a étudié près de lui et qui a fait... qui a été son homme à tout faire pendant de nombreuses années et maintenant adoubé par le maître pour pouvoir commencer à enseigner et à faire des conférences et à faire des démonstrations. Et donc, on va montrer la dernière partie du kintsugi qui est la pose de l'or. Et Jean va donc expliquer en même temps, après la conférence, quelle est la technique du kintsugi. Il y aura aussi, mais ça c'est plus nous, des ateliers de manga, des ateliers d'origami, je pense, des ateliers de kibana. Donc je crois que ça fera un beau panel d'activités.
Et puis je vais dénoncer, il y a même des consoles de jeux vidéo.
Oui, voilà, là c'est plus notre histoire. Mais oui, ceux qui aiment ça, ils auront aussi leur console, le Luna Park, comme on disait chez nous.
Et puis quand vous visitez l'expo, faites-vous plaisir, parce que moi, quand je l'ai vu loin, j'ai crié « Pikachu, Chouchou !» Bah oui, il y a Pikachu, il est là aussi.
Ouais, il y a Mario, il y a Donkey Kong, il y a Sengoku, One Piece, enfin, ils sont tous là. Voilà.
Ça fait partie de la culture aussi.
Voilà, il y a même quelques Lolita, il faut aller les voir. Hein. Et puis, il y a des magnifiques photos de geisha, et puis celle des Yakuza. Hein, moi, j'ai vraiment envie de souligner Chloé Jaffé, qui est lyonnaise. Et en fait, notre association, on a eu à un moment un espace qui était un peu galerie à Bruxelles. Et puis, c'était un peu trop lourd pour notre petite ASBL. Et donc, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on se met en partenariat avec des galeries qui, elles, sont des galeries marchandes. Et on travaille en collaboration. Donc, nous, on est des porte-parole. On fait venir des galeries, dont Chloé, qui vient de la galerie Ibacho, les calligraphes qui viennent de la galerie Kitai au Japon. Et donc, ça nous permet de faire des échanges et donc, Chloé est partie vivre là-bas, au Japon. Elle s'est fait intégrer dans la communauté Yakuza en étant la petite amie d'un des Yakuza. Et elle a pu photographier les femmes de tout près, tout près. Donc, j'espère qu'elle va venir nous présenter aussi son travail et que ce sera probablement, je l'espère, il faut le proposer à Tempora, en tout cas, une des intervenantes durant ces 6 mois d'expo.
Merci.
Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, à bientôt, à Passion Japon.